Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des enfants menacés par la faim, le froid, les maladies en Syrie. Que fait la France pour ces petits ressortissants? Deux grands avocats portent plainte devant l'ONU, information que France Inter vous révèle et vous détaille dans un instant. Retour à la case départ, retour à la case violence, question sur le maintien de l'ordre. Après un samedi noir sur les Champs-Élysées, le dispositif de sécurité n'a pas été à la hauteur, reconnaît Matignon. Emmanuel Macron attend des solutions immédiates. À 8h20, un historien avec vous Nicolas, pour parler montée des populismes.
Oui, il s'agit de Marc Lazare qui publie Peuplecratie, c'est le mot qu'il propose pour caractériser les populismes. Peuplecratie chez Gallimard, il est l'invité du grand entretien. 01 45 24 7000, le standard est ouvert pour toutes vos questions.
À la une également, la loi santé à l'Assemblée et les tâches des médecins sous-traités quand c'est possible, ils n'aiment pas ça les médecins. Boeing, les deux crashs de 737 Max ont des similitudes, les boîtes noires commencent à parler. Et puis attention, fragile, le trésor de Toutankhamon visible à partir de samedi, installation est sûre, froide à la grande halle de la Villette.
France Inter.
Les enfants sont-ils comptables des choix de leurs parents? Des enfants nés en Syrie, le plus souvent de mère française, partis rejoindre le califat du groupe État islamique. Ils sont une centaine, peut-être 150, et la France entend régler leur sort au cas par cas après avoir rapatrié 5 orphelins la semaine dernière. La France, une nouvelle fois accusée devant l'ONU, c'est une information France Inter. Deux ténors du barreau parisien, Maître Leclerc et Dosé, portent plainte pour tenter, Sophie Parmentier, d'infléchir la doctrine du gouvernement.
C'est la deuxième plainte qu'il dépose en quelques jours devant l'ONU après le Comité des droits de l'enfance et cette fois le Comité contre la torture que saisissent de grands avocats parisiens parce que la situation se détériore de jour en jour, clame Maître Marie Dosé, un peu réconforté par le rapatriement de quelques orphelins la semaine dernière. Mais il faut rapatrier tous les enfants sans discrimination et avec leur mère, plaide-t-elle. Des dizaines d'enfants sont en danger de mort imminente dans le froid et la boue des camps du Kurdistan syrien, écrit l'avocate dans cette nouvelle plainte contre l'État français.
Je parle de tuberculose, je parle de choléra, je parle de dysenterie. L'accès aux latrines n'est quasiment plus possible. Donc ces enfants sont en manque d'eau, ils sont malnutris, ils sont malades. Et ça s'appelle des actes de torture et des traitements inhumains et dégradants. On sait que ces enfants périssent et on sait que ces enfants meurent. 29 enfants sont morts à minima ces deux derniers mois par le froid syrien. Et c'est pour ça que je dépose plainte, parce que la France a le devoir de protéger des enfants français, ces enfants, de traitements inhumains et dégradants, comme elle a le devoir de prévenir des actes de torture sur ses enfants.
Des enfants qui ont pour la plupart moins de 5 ans, comme les 5 petits orphelins rapatriés il y a 3 jours par l'armée française.
Sophie Parmentier, combien de femmes et d'enfants encore présents dans le réduit djihadiste de Baghouz? Il reste 5000 personnes dans cette ultime poche de résistance de Daesh. Les forces démocratiques syriennes viennent de rentrer à l'intérieur. Les bombardements se font plus massifs depuis hier soir, comme le rapporte notre envoyé spécial sur la ligne de front, Aurélien Colli, son reportage. Et ses photos sur franceinter.fr.
8h03, c'est la question du jour, Florence. Question sur le maintien de l'ordre après un samedi de casse et de pillage sur les Champs-Élysées.
Que fait la police et son ministre? S'époumonne l'opposition de droite. On a entendu Guillaume Larrivé juste avant ce journal. Matignon assume des dysfonctionnements. Édouard Philippe sera tout à l'heure dans le bureau d'Emmanuel Macron avec Christophe Castaner et Laurent Nougnès pour le ministère de l'Intérieur, puis Nicole Belloubet pour la chancellerie, sommet d'apporter des solutions. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour.
Des solutions, alors qu'on a l'impression que tout a déjà été essayé depuis le début du mouvement des Gilets jaunes et les premières flambées de violence en décembre.
Oui, depuis ces premiers débordements, le gouvernement a mis en place notamment les détachements d'action rapide, des équipes mobiles chargées d'interpeller les fauteurs de troubles. Il y en avait 50 de ces équipes hier dans la capitale, insuffisant à l'évidence. Déjà essayé aussi les arrestations en amont, par exemple dans les gares de toute personne, avec des armes par destination, alors même des lunettes contre les gaz lacrymogènes peuvent dans ce cadre être considérées comme suspecte. Ça a été plutôt efficace, mais cela demande énormément de policiers et de gendarmes sur le terrain dans un contexte d'épuisement des forces de l'ordre au bout de 4 mois de mouvement. Alors tout n'a cependant pas été tenté. Première piste pour le gouvernement, un changement total de doctrine de maintien de l'ordre, cette doctrine à la française. Depuis la mort de Malik Houssekine en 86, les forces de l'ordre, on le sait, évitent d'aller au contact des manifestants. Vu la persistance des violences, il pourrait leur être demandé d'aller à l'affrontement physique, avec le risque qu'il y ait des blessés, voire des morts. Deuxième option, interdire toute manifestation sur les Champs-Élysées. Si une manifestation est interdite, le fait de se rendre sur les Champs-Élysées, par exemple, deviendrait en soi un délit. Cela renforce donc la possibilité de sanctions. Et puis reste la solution de réactiver l'état d'urgence, ce qui pourrait permettre d'assigner préventivement des gens à résidence.
Et puis Corinne, il y a la loi Casseurs, elle a été votée, pas encore promulguée. Est-ce qu'elle est de nature, cette loi, à régler le problème ?
Alors oui, cette loi anti-casseurs doit encore être validée par le Conseil constitutionnel. Elle prévoit notamment la possibilité d'interdire administrativement à une personne de manifester comme les interdits de stade. Et elle crée un nouveau délit de dissimulation volontaire du visage. Alors la loi ne résoudra pas tout, c'est évident. La difficulté majeure, c'est d'arrêter des groupes de casseurs très mobiles ou bien d'arriver à les identifier a posteriori, du travail de renseignement autant que de maintien de l'ordre.
Corinne Audouin, merci du service police-justice de France Inter.
Et pendant ce temps, le pétrole remonte, Florence, et avec lui, les prix à la pompe.
Et oui, ce fut, souvenez-vous, l'étincelle qui lança le mouvement des gilets jaunes. Entre-temps, on a suspendu l'augmentation des taxes, les cours du pétrole ont baissé avant de regrimper de nouveau depuis janvier, 6 à 8 centimes de plus en moyenne, parce que les pays pétroliers ont décidé de limiter leur production. Ils se réunissent de nouveau aujourd'hui. Alors Manuel Ruffez, les pleins vont-ils continuer à coûter de plus en plus cher ?
Depuis le début de l'année, l'or noir progresse sans cesse à la hausse. Et pour cause, fin 2018, les prix chutent, trop pour l'OPEP et ses partenaires, qui vont décider de réduire d'eux-mêmes leur production, au moins jusqu'en juin, pour mécaniquement faire remonter le prix. Francis Dusseux, le président de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières.
Le prix au mois de décembre était tombé assez bas. Nous avons une réaction de l'OPEP et de la Russie de couper la production. Comme la demande mondiale continue à monter, l'équilibre est plus tendu et les prix sont remontés progressivement. Donc ça se traduit nécessairement par une légère augmentation des prix à la pompe.
Mais a priori, on aurait atteint désormais un seuil de stabilité, croit percevoir Francis Dusseux.
Les prix du pétrole brut devraient se stabiliser autour de 60-70 dollars le baril, ce qui fait que les prix à la pompe devraient rester, eux aussi, assez stables. Et comme il n'y a pas d'augmentation de taxes de prévu sur les 2019, ce qui est une bonne nouvelle, je vois une certaine stabilité des prix tout le long de l'année, sauf gros soucis géopolitiques.
Mais justement, la géopolitique entre le Venezuela, l'Iran ou encore la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis, difficile de se projeter avec précision.
Pour lui, c'est l'inverse des courbes du pétrole, les courbes de Nicolas Dupont-Aignan, celles des sondages sont en baisse depuis le début de l'année, alors qu'il talonnait les Républicains au mois de décembre. Debout la France à genoux, Nicolas Dupont-Aignan traverse un passage à vide, Maxence Lambrecq.
Son rêve s'est envolé. En pleine crise des gilets jaunes, il croyait que les courbes allaient finir par se croiser avec LR. 6 points les séparent désormais. L'entrée en campagne de François-Xavier Bellamy l'a affaibli. La droite BCBG a trouvé son candidat pendant que lui multipliait les faux pas. Des attaques personnelles en direct contre les journalistes Ali Badou puis Patrick Cohen.
Monsieur Cohen, est à 6 heures de prendre monsieur Mazonet.
On ne peut pas continuer.
Il a été exclu du plateau. Un peu plus tôt, il eut la folle histoire du rattachement de l'Alsace à l'Allemagne, relayé par l'un de ses eurodéputés. Sa frilosité a condamné les violences des gilets jaunes. Le limogeage d'une de ses candidates qui devait prêter avec son père 2 millions pour la campagne, mais dont les dérapages racistes ont été exhumés. Une plainte pour menace de mort aussi après cette mauvaise blague à Orly.
Et les députés qui viendront ici parler au nom d'En Marche, eh bien ils ne doivent pas ressortir vivants s'ils votent là.
Nicolas est devenu Monsieur Plus, commente Marine Le Pen, mais les gens, dit-elle, préfèrent toujours l'original à la copie. Les bons sondages l'ont fait déraper, ajoute un de ses anciens fidèles. Résultat, l'une de ses conseillères presse vient de démissionner. Le secrétaire départemental du Var aussi, mais pour des raisons personnelles, assure Nicolas Dupont-Aignan, qui mise tout maintenant sur les débats télé pour déstabiliser son ennemi, François-Xavier Bellamy.
Des perturbations dans les transports, des écoles fermées, prévoir de prendre quelques précautions demain, journée de grève nationale à l'appel de la CGT, FO et la FSU notamment. Pour le pouvoir d'achat, la hausse du SMIC, les services publics, République et contre la réforme de l'école notamment. Les médecins face à la démographie, décalage et pénurie que la loi santé tentera de juguler. Elle arrive cette semaine à l'Assemblée avec la fin du numerus clausus et la délégation de tâches médicales aux professions paramédicales. Véronique Julia, ça n'est pas gagné, il n'y a pas de consensus sur le sujet.
À situation d'urgence, mesure d'urgence, plaident les partisans de ce partage des tâches. La semaine dernière, plusieurs députés ont ainsi brandi des amendements pour permettre aux professions paramédicales d'assumer plus de missions. Aux orthoptistes, aux pharmaciens, aux infirmières, aux aides-soignantes, aux opticiens aussi. Agnès Firmin-Lebaudeau est députée de Seine-Maritime. Elle a déposé un amendement pour permettre aux opticiens de détecter d'éventuels glaucomes chez les patients.
Nous savons tous qu'il y a pénurie d'ophtalmo et permettre aux opticiens, une fois par an, de contrôler la tension visuelle, est-ce que c'est mieux que pas du tout? C'est la question.
Faciliter la vie des patients, oui, mais attention aux réponses précipitées. Réagissant à l'amendement qui propose de permettre aux pharmaciens de délivrer sans ordonnance des médicaments pour une cystite ou une conjonctivite. Vite, amendement retenu en commission et qui sera donc débattu dans l'hémicycle. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est montrée particulièrement prudente et réservée.
Comment on s'assure, chez un praticien qui n'est pas un ophtalmo, qu'on ne passe pas à côté de certains diagnostics? Nous prenons des risques. Je trouve que c'est un peu prématuré aujourd'hui d'inscrire dans la loi des actes médicaux. Tout ça nécessite un peu de concertation entre les professionnels.
La ministre de la Santé concède malgré tout que, d'après elle, l'évolution des compétences et le partage des tâches sont inéluctables. Inéluctables, oui, mais sans passage en force. De ce point de vue, le sort de l'amendement sur les pharmaciens et la délivrance de médicaments d'urgence sera donc particulièrement à suivre cette semaine.
Voilà un autre amendement qui chagrine les banques, celui-là adopté dans la nuit de vendredi à samedi par l'Assemblée. Il concerne ceux qui prennent des crédits immobiliers et qui ne seront plus obligés de domicilier leurs revenus dans la banque qui leur prête l'argent comme elle les y est obligée souvent. Le cardinal Barbarin a rendez-vous avec le pape aujourd'hui au Vatican. Il va lui remettre sa démission après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir saisi la justice dans l'affaire Prena. Et c'est le pape qui choisira in fine d'accepter ou non cette démission.
Et ça se confirme, Florence, le crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines ressemble à celui qui l'a précédé au mois d'octobre en Indonésie.
Première révélation des boîtes noires de l'appareil qui s'est écrasé le week-end dernier, selon Addis Abeba, ce qui n'étonne pas l'ancien commandant de bord Jean Serra. Il a eu accès aux données des aiguilleurs du ciel éthiopien.
Depuis le moment où il a décollé jusqu'à la fin des 4 premières minutes. On s'aperçoit que l'avion qui a des vitesses verticales, alors un coup de 500 mètres par seconde en montée, puis d'un seul coup 800 mètres par seconde en descente, le commandant de bord qui les a appelés était totalement paniqué. D'entrée eux-mêmes, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas du tout dans le pilotage de cet avion. Ce qui s'était passé avec Lion Air, c'est qu'il y avait un problème de contrôle de l'axe vertical de l'avion qui a fait que l'avion se déplaçait un coup en montée, un coup en descente, un coup en montée, puis d'un seul coup il a décroché et il est tombé. Eh bien, il y a ce point commun, c'est pour ça que maintenant, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle entre les deux vols.
J'en serai avec Omar Waman. Boeing annonce la correction prochaine de son logiciel de stabilisation alors que le département d'État américain des transports lance une enquête sur la certification de ces Boeing par le régulateur du secteur mis en cause par la presse aux États-Unis. La Nouvelle-Zélande sur le point de durcir sa législation sur les armes. Le gouvernement annonce cette nuit s'être mis d'accord 3 jours après les attaques de Christchurch. 50 morts dans 2 mosquées. C'est reparti pour un tour à Londres cette semaine. Le Parlement britannique va encore se prononcer sur l'accord Brexit conclu entre Theresa May et Bruxelles. L'accord rejeté déjà 2 fois. Et plus le temps passe, plus les Brexiters redoutent que le pays ne sorte pas de l'Union européenne. Certains sont en marche contre la trahison du nord-est de l'Angleterre jusqu'au Parlement de Londres le 29 mars prochain. Marie-Pierre Véraud en a rencontré quelques-uns.
Let's go, we're heading to London.
Le vent balaye les côtes du nord-est de l'Angleterre alors que plusieurs dizaines de Brexiteurs reprennent leur marche vers Londres. L'entrepreneur Richard Tice mène la marche.
Il y a millions et millions de voteurs qui sont furieux avec le gouvernement. Et donc, c'est une manifestation contre le gouvernement. C'est très important, c'est une question de démocratie.
En France, vous avez les gilets jaunes, nous avons les gilets bleus pour notre démocratie. On n'en peut plus des gens qui nous disent ce qu'il faut faire et comment penser. Londres, prépare-toi, on arrive.
Des voitures croisent le cortège et klaxonnent en soutien des habitants, les saluent depuis leur balcon, comme Graham, retraité de la marine.
Toute la côte nord-est soutient les marcheurs. Cette ville seule a perdu 17 000 emplois à cause de l'Europe. La construction navale, l'industrie minière, tout ça, tout est parti à cause de l'Europe.
Mais attention, les marcheurs ne laisseront pas dire qu'ils n'aiment pas l'Europe. Belinda étudie le droit à Londres.
L'eurosscepticisme est un mouvement européen, ce n'est pas le Royaume-Uni contre l'Europe. Ce n'est pas juste de dire que nous sommes europhobes ou d'extrême droite, nous sommes des gens ordinaires. Nous voulons juste que nos lois soient faites à Westminster plutôt qu'à Bruxelles. C'est aussi simple que cela.
Un message qu'ils martèleront jusque devant le Parlement. À Hartlepool, dans le reste de l'Angleterre, Marie-Pierre Véroux, France Inter.
Et puis attention, trois annulations d'Eurostar et des retards. Aujourd'hui, la faute à ce Brexit qui ne vient pas et à la grève du zèle des douaniers français. Pas de miracle hier pour les Marseillais qui n'ont plus battu le PSG depuis 2011. Ils ont perdu 3-1 au Parc des Princes quand Lyon l'emportait 3-2 contre Montpellier. Lyon, troisième du championnat, n'est plus qu'à 4 points de Lille. Toujours second après cette 29e journée. Enfin, retenir son souffle, Nicolas, jusqu'à samedi et l'ouverture de Toutankhamon, le trésor du pharaon, exposition à la grande halle de la Villette. Retenir son souffle avant de voir le trône du pharaon, son lit, des statues, des bijoux. Retenir son souffle, comme le fait en ce moment le commissaire de l'exposition qu'a rencontré Isabelle Pasquier.
Je peux pas imaginer, si jamais ça casse devant moi, je meurs.
Ambiance plus électrique que pour l'arrivée d'une rockstar. À côté de moi, un homme retient son souffle. C'est Dominique Farou, égyptologue et conseiller scientifique de l'exposition. Car devant nous arrive l'un des trésors du trésor de Toutankhamon. Une statuette de 75 cm de hauteur. Toutankhamon debout sur une sorte de planche de surf en bois recouvert de feuilles d'or. Pour manipuler le roi sur son esquif, toute une équipe en gants noirs, maîtrise et concentration maximale pour placer la statuette dans sa vitrine. Et quand on soulève la statuette, Dominique Farou se cache carrément les yeux.
Je vais avoir une crise cardiaque. Je peux même pas regarder parce que j'ai trop peur que ça tombe. C'est un métier. Hein. Tu peux pas. C'est émouvant quand même. C'est un des plus beaux objets du monde et un des plus fragiles. Et j'aurais la même impression si je voyais un môme en train de faire des acrobaties sur une corde raide entre deux buildings. Il est tellement fragile quand ils l'ont bougé. Il y a quelqu'un qui éternue et il se passe quelque chose. Moi, vous me donnez 1 million, je touche pas cet objet.
Voilà l'effet de sortilège qu'exerce encore Toutankhamon en 2018, 3300 ans après sa mort.
Panique à l'installation Toutankhamon, le trésor du pharaon, à partir de samedi jusqu'au 15 septembre. On a le temps d'aller voir cette exposition à la Grande Halle de la Villette.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Retour au calme, Marie-Pierre.
Et oui, l'instabilité se retrouve ce matin sur les régions de l'Est avec quelques averses encore et de la neige à basse altitude de l'Alsace aux Alpes. Quelques flocons également vont tomber sur les Pyrénées, le massif central des 900 mètres d'altitude. Les éclaircies sont de retour par le nord des Hauts-de-France au centre du pays, excepté quand même sur la pointe bretonne où le ciel va rester bien gris. En revanche, plein soleil autour de la Méditerranée, mais au prix du vent. Mistral et Tramontane soufflant encore fort jusqu'à 90 km par heure et le mercure a bien baissé ce matin à cause de l'air froid venant du Canada.
Retour des averses cet après-midi.
Sur les deux tiers du pays, l'instabilité va se réactiver et les nuages sur la Bretagne vont gagner les pays de la Loire jusqu'au Pays Basque. En revanche, le soleil sera plus généreux de la côte d'Opale aux plages du débarquement à la région parisienne au centre. De la neige toujours sur les reliefs de l'Est et puis autour de la Grande Bleue jusqu'en Corse. Soleil et du vent. Côté du mercure, on va gagner quelques degrés au nord, comme à Paris, où on aura 12 degrés. En revanche, on va en perdre plusieurs dans le sud-est, surtout à Grenoble, où hier il a fait 22 et cet après-midi, vous n'aurez pas plus de 11 degrés. Au plus bas, il fera 4 dans le Vercors à Villard-de-Lans, comptez 10 à Calais, 12 à Bourges, 13 à Biarritz, 15 à Marseille et 17 à Bastia.